Vous écoutez, on lit pour vous.
La crise culturelle, c'est un peu la faute des médias. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 24 mai 2025 dans Le Devoir. La relationniste Rosemonde Gingras parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. À la fin du siècle dernier, la passionnée de culture terminait son bac en communication et travaillait chez le disquaire Archambault à Montréal. Un patron de la compagnie de disques Audiogramme, qui avait ses bureaux dans le même immeuble, a repéré la passionnée de musique et lui a offert de devenir relationniste. Elle est entrée dans un monde stimulant mais exigeant, parce que les rapports entre la culture et les médias traditionnels roulaient alors à plein régime. On pouvait faire 3 lancements de disques par semaine, et quand c'était pour Marat Tremblay ou Michel Rivard, j'avais 3 télés live à l'événement, en plus des journaux et des magazines, raconte Rosemonde, que tout le monde connaît sous ce seul beau prénom emprunté par ses parents au film « La salamandre » d'Alain Tanner. Le reporter Claude Deschênes intervenait constamment en direct au téléjournal pour des lancements, des premières et des reportages en culture, poursuit-elle. On faisait des lives à TVA. TQS avait l'émission Flash. Les médias couvraient les créations émergentes aussi. C'était ça la normalité de la couverture culturelle qui avait un fort impact sur la diffusion des arts et des spectacles. Le sujet a son importance dans le cadre de cette série sur les mutations et les crises du système culturel au Québec. Les médias, les artistes et les organismes de la culture avancent en cordée depuis le 19e siècle. L'art, en tant que production sociale, source de sens et parole publique, mérite d'être analysé et critiqué. Les médias jouent même un rôle dans le rayonnement des représentations culturelles en sélectionnant, publicisant et jugeant les créations. En retour, les organismes et les industries du secteur contribuent à la survie des médias en achetant de la publicité, mais aussi en drainant des publics intéressés par l'information culturelle. Cette interdépendance a été profondément modifiée au cours des dernières décennies. Les supports traditionnels en crise, balançant entre exigences économiques et responsabilités éditoriales, font des choix de survie. Les concentrations médiatiques encouragent les couvertures frisant le conflit d'intérêts. L'environnement numérique capte la publicité, mais aussi les habitudes de consommation. Le critique dominant de la section culturelle d'une salle de rédaction traditionnelle couvrait autrefois le théâtre, la littérature ou la musique et s'occupe maintenant des écrans, petits et grands. Avant, c'était comme un fil médiatique continu et constant. Maintenant, il y a peu de critiques et les effectifs des sections culturelles ont fondu, dit celle qui a fondé Rosemonde Communication il y a une quinzaine d'années. Elle ajoute que ses clients des musées ou des théâtres sont bien sûr obligés de s'adapter au nouveau monde. Avant, un lancement de saison relayé par des journalistes et quelques pubs suffisait pour rejoindre le public et les abonnés. Maintenant, pour les attirer, il faut consacrer des ressources de plus en plus grandes au site Internet, produire des vidéos et gérer les réseaux sociaux. Il faut entretenir des liens au quotidien, sans relâche, parce qu'en ligne, tout le monde est sollicité pour son attention, partout, tout le temps. Ce que donnent les données. Ce n'est pas Yannick Simon-Matard de l'agence lepointdevente.com qui va contredire Rosemonde. Sa compagnie existe depuis une quinzaine d'années. Elle propose des services intégrés de marketing culturel en s'occupant de la promotion et de l'administration des ventes de billets. Sa spécialité, les artistes émergents en spectacle dans quelques 200 petits lieux de diffusion répartis sur tout le territoire québécois. On s'est vite positionné comme une plateforme de commercialisation et de gestion, dit le cofondateur et PDG de l'entreprise. On utilise la force de notre réseau, si on peut dire. Nous sommes capables de cibler précisément les acheteurs potentiels. on réussit très bien puisqu'on leur vend des millions de billets par année. Le succès repose sur les données, qui jouent donc un rôle central dans la promotion de la culture à l'ère numérique. Elles permettent d'analyser finement les préférences et les habitudes de consommation des publics pour ensuite adapter les communications, personnaliser le marketing et même lier l'offre à la demande. On est très vocaux sur les réseaux sociaux et on a choisi de mutualiser les données de nos acheteurs de billets pour maximiser l'impact de notre marketing, explique encore Yannick Simon-Matard. On a développé des outils vraiment très poussés et très puissants pour la promotion culturelle. Il donne un exemple précis. Si 500 personnes ont acheté des billets pour un spectacle de rock alternatif à Saint-Casimir, les données recueillies permettent de leur annoncer personnellement qu'un spectacle similaire pouvant leur plaire va être présenté dans la municipalité voisine. La nouvelle curation. Plus jeune, au début du siècle, M. Simon-Matard a travaillé chez un disquaire, comme Rosemonde. Il observe que ce travail de curation, comme celui dévolu autrefois aux journalistes et aux critiques des médias traditionnels, pèse maintenant beaucoup moins dans la balance de la consommation culturelle. « Je faisais le travail de curation en proposant des nouveautés à mes bons clients », dit-il. « Il y a encore de très bons disquaires et c'est important de les fréquenter. Mais maintenant, la découverte et les recommandations se font à travers Internet et les plateformes de streaming, les commentaires sur les réseaux sociaux, les podcasts et différents blogs spécialisés. D'où aussi l'importance de la découvrabilité. Pour prendre connaissance d'une création en ligne, il faut bien que son diffuseur la rende visible. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec a déposé cette semaine un projet de loi pour forcer les grandes plateformes comme Netflix, Spotify ou Disney+ à faciliter l'exposition des contenus culturels québécois. Rosemonde Gingras, elle, mise toujours sur les rapports personnels, ses liens de relationniste avec les reporters et des artistes, méthode apprise pendant 3 ans au contact de Francine Chaloux, qui a inventé la profession au Québec. Sauf qu'il y a de plus en plus d'artistes et de moins en moins de journalistes spécialisés dans l'ensemble des médias, même si certains persévèrent. Je trouve important d'avoir une parole critique informée et cultivée sur l'art, dit la passionnée, qui était à Londres en janvier 2025 pour une expo sur Van Gogh et sera à Paris en été pour une autre sur David Hockney. La critique, positive ou non, enrichit tout le milieu, la relation au public, la visibilité des artistes. La culture reste ce qu'on a de plus précieux pour se sentir les uns les autres appartenant à une communauté. Elle milite même pour que les soutiens étatiques aux médias soient conditionnels à une couverture culturelle par ceux-ci. L'édition est subventionnée au Québec. « Sinon, on ne publierait pas tant de livres, ici, note-t-elle. Il devrait y avoir des obligations précises pour que les médias, eux aussi subventionnés, couvrent la culture. » Elle fait observer qu'il n'y a presque plus de couverture culturelle dans les téléjournaux, sauf exception, par exemple quand Taylor Swift a donné des concerts à Toronto l'automne dernier. C'est à pleurer quand on compare cela avec la couverture d'il y a 10 ou 12 ans, conclut Rosemonde. Ce n'est pas normal de négliger à ce point une réalité aussi fondamentale de notre vie commune, surtout dans une industrie subventionnée par l'argent public. Une tempête parfaite. Le professeur titulaire François Colbert de HEC étudie le marketing culturel depuis des décennies, et il parle d'une tempête parfaite pour expliquer la transformation radicale des rapports entre la culture et les médias. La population du Québec augmente très lentement et surtout par l'apport de nouveaux arrivants avec leurs propres habitudes culturelles, dit-il. Le bassin des consommateurs de musique ou de théâtre stagne, et pourtant, on n'arrête pas de produire de plus en plus d'artistes et de spectacles. ce n'est pas possible pour les médias traditionnels déjà en difficulté de suivre cette effervescence et les jeunes, eux, fréquentent moins ces médias. C'est la tempête parfaite. La situation se complexifie encore par le fait que les différents publics des différentes productions culturelles fréquentent différents médias. Le public n'est pas homogène selon les âges, les revenus ou l'éducation, dit encore le professeur. Les organismes culturels doivent donc rejoindre ces différents segments sur différentes plateformes en analysant finement leur clientèle pour comprendre qui les a fréquentés et qui est donc susceptible de les refréquenter. Faire du marketing a toujours été complexe, ajoute M. Colbert. D'autant plus que les entreprises culturelles n'ont pas beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'imagination et d'excellentes bases de données pour tirer son épingle du jeu. C'était « La crise culturelle, c'est un peu la faute des médias », un texte de Stéphane Baillargeon paru le 24 mai 2025 dans Le Devoir.
Le choix idéal n'existe pas. Un texte de Florence Dancause, paru le 15 mai 2025 dans La Presse. L'anxiété vous ronge dès que vous faites face à un choix difficile? Vous n'êtes pas seul, rassurent les psychologues Amélie Seyda et Isabelle Geninet, qui espèrent briser certains mythes sur la prise de décision avec leur livre « La peur de choisir » pour désamorcer l'anxiété de décider. Pourquoi vit-on un stress et même de l'anxiété quand on choisit? Isabelle Geninet. Dans un premier temps, on est souvent face à deux avenues équivalentes. Donc, quand on choisit quelque chose, on renonce aussi à autre chose. Il y a la peur de se tromper. Dans notre société, il n'y a plus de place à l'erreur. Il y a aussi la peur de regretter la décision. Mais on oublie que le regret est une émotion légitime qui nous permet d'identifier un besoin qui n'avait pas été identifié et de corriger le tir pour la prochaine fois. Amélie Seyda. Les gens se mettent beaucoup de pression, mais on oublie que d'être dans une position de choix, ça demeure un privilège et une opportunité. Quels sont les mythes qu'on entretient face au choix? Amélie Seyda. On entend « Dans le doute, abstiens-toi » ou « Quand ça va être le temps de choisir, tu vas le sentir. » Comme si les doutes allaient partir ou que si l'anxiété perdure, on n'était pas prêt à choisir. Isabelle Geninet. Nous, on avance l'idée de cohabiter avec l'anxiété dans la prise de décision. Plutôt que de la voir comme un signe que tu ne devrais pas aller de l'avant ou que tu fais un mauvais choix, la considérer comme une émotion qui va t'accompagner tout au long du processus. Donc, le bon choix n'existe pas? Amélie Seyda. Non, on se pose plutôt la question « Qu'est-ce qui serait le meilleur pour moi, en ce moment-ci, dans ce contexte-ci? » Et chacun va avoir une réponse différente. Isabelle Geninet. Devant des choix très difficiles, avec beaucoup d'informations qui s'équivalent, on peut s'ancrer dans nos valeurs. C'est la meilleure boussole. Dans le livre, vous nous dites qu'on saute souvent des étapes lorsqu'on prend une décision. Quelles sont ces étapes? Amélie. L'anxiété fait qu'on peut être dans un mode figé, où on paralyse ou on procrastine, ou dans un mode pressé, où on se met à choisir impulsivement pour enlever un inconfort. Mais on ne prend pas assez le temps de définir la situation, le problème et ce qui est important pour soi. On gagne à faire deux pas en arrière et observer ce qui se passe. Mais doit-on faire attention à la suranalyse? Amélie. Oui, quand on suranalyse, on s'enfonce. On est dans une quête de réassurance, de garantie de sécurité ou de succès. Mais quand on choisit, il y a toujours une part de risque. Quelle posture devrait-on adopter face à une prise de décision? Isabelle. On devrait avoir une approche constructive plutôt qu'une posture pessimiste, négative ou défaitiste. On peut se demander s'il y a un défi ou une opportunité à saisir dans cette situation plutôt que de seulement la voir comme menaçante ou compliquée. Si on se sépare, qu'on déménage, qu'on change d'emploi, ça vient avec son lot de stress et d'incertitudes, mais aussi avec des opportunités d'apprentissage. Il y a de nombreuses possibilités de nos jours. Est-ce plus difficile qu'avant de choisir? Isabelle. On a tellement accès à des informations aujourd'hui, alors on pense qu'on devrait pouvoir avoir des garanties et des réponses claires pour sûr dans nos choix. Mais ce n'est pas le cas. Plusieurs personnes quittent leur emploi ou leur partenaire et ne veulent absolument pas se tromper ou regretter. Mais on n'aura jamais la certitude. Amélie. Et il ne faut pas juger notre choix après coup. Quand on connaît l'issue de la situation, c'est toujours plus facile. Il faut se ramener au moment où on a fait le choix et faire preuve de compassion et de bienveillance envers soi. C'était « Le choix idéal n'existe pas », un texte de Florence Dancause, paru le 15 mai 2025 dans La Presse.
On peut faire bien d'autres choses que regarder TikTok. Un texte d'Alain McKenna, paru le 5 juin 2025 dans La Presse. Sur une planète où les problèmes environnementaux et sociaux s'accumulent, les solutions existent. Il suffit de les inventer. Par exemple, un composteur extérieur qui fonctionne l'hiver grâce au soleil. Une brique composée de matériaux domestiques recyclés et qui agit comme un meilleur isolant pour les bâtiments traditionnels que la brique commerciale. Des écouteurs réparables. Un trieur de déchets pour les gens qui refusent de s'y astreindre. Notre génération est capable de faire autre chose que juste aller sur TikTok, lance en boutade Liam Pelado, élève de premier cycle au bien nommé collège Nouvelle Frontière de Gatineau en Outaouais. Liam et ses coéquipiers, Alexandre Aubé et Maxime Labbé, ont imaginé un casque d'écoute démontable et réparable, une pièce à la fois. C'est que les casques modernes se brisent facilement et se jettent d'un bloc. C'est du gros gâchis. Leur invention, appelée « écouteur », un jeu de mots pleinement assumé, a remporté le premier prix dans sa catégorie à l'occasion du concours de design « L'Odyssée de l'objet » qui avait lieu à la fin de mai. Le concours « L'Odyssée » en est à sa 4e édition au Québec. Le projet a démarré en 2002 en Belgique. Parrainé par le réseau Technosciences et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le concours vise à familiariser des jeunes avec les différentes facettes du design et, dans ce cas-ci, du design industriel. Et il fallait y penser. Xipi Yang termine sa dernière année secondaire au Collège Sainte-Anne à la Chine. Son équipe, complétée par Nour Bouyad, Émilie Hanran, Du, Gladys Darazi et Angelika Zarova, a conçu un composteur extérieur à la fois simple et ingénieux. Il récupère la chaleur du soleil l'hiver pour garder bien au chaud son contenu afin que le processus de compostage se poursuive normalement même par temps froid. Comme dirait l'autre, il suffisait d'y penser.
J'ai un composteur dans ma cour, mais je n'ai jamais vu mes parents l'utiliser. Ça restait mystérieux, raconte Xipai. On a vraiment décidé de démystifier le compost et à partir de là, de trouver une façon de rendre ce processus possible même l'hiver, dans le climat québécois. Le bac, créé par les 5 jeunes, est très simple. Aucune technologie complexe. C'est, non sans une certaine ironie, de l'effet de serre appliqué au bon endroit pour le dire ainsi. C'est difficile, voire impossible de composter en hiver, ajoute l'élève de 5e secondaire. Sauf si on recourt au compostiver, son invention. En plein hiver, il est parvenu à conserver une température de 28 degrés, suffisamment pour que la chimie interne opère. Apprendre à pêcher. Évidemment, pour que ce composteur ait un impact, il faudrait qu'il soit commercialisé. Pour que les écouteurs réparables de Liam et son équipe deviennent réalité, il faudrait qu'un fabricant adopte le concept. Ça n'arrivera pas. Chacune des 16 équipes en lice dans le cadre de l'Odyssée de l'objet était accompagnée par un designer professionnel qui les aidait dans leur démarche, mais personne n'est ici avec un plan de mise en marché ultérieur. L'idée est avant tout de présenter aux jeunes des univers créatifs, le génie et le design, qui leur sont probablement moins familiers. Par exemple, Xi Pai Wan pensait étudier en médecine. Ses plans ont changé. Ce projet-là m'a donné une nouvelle perspective sur le design. Je pensais étudier dans le secteur médical, mais je me suis trouvé un intérêt pour le génie. J'aimerais étudier en génie biomédical, peut-être. Nous, on aimerait peut-être plus tard concrétiser notre projet, dit de son côté Liam Pelado. Pour le concours, c'est terminé, mais un designer qui était sur place nous a laissé son numéro. Il aimait l'idée et pense qu'on peut le réaliser. Vous connaissez l'adage. Durant l'Odyssée de l'objet, les jeunes ont non seulement reçu un poisson, on leur a aussi appris à pêcher. La suite leur appartient. C'était « On peut faire bien d'autres choses que regarder TikTok », un texte d'Alain McKenna paru le 5 juin 2025 dans la presse.
L'actualité verte de la semaine, un texte de Jean-Thomas Léveillé, paru le 26 mai 2025 dans la presse. Quiz. Depuis combien de temps l'orignal est-il disparu du Royaume-Uni où un projet prévoit sa réintroduction? Réponse. 3000 ans. Des organisations du Derbyshire et du Nottinghamshire, dans le centre du pays, ont reçu des fonds en mai pour un projet de réintroduction de l'élan, nom donné à l'orignal en Europe. La chasse et la perte d'habitat ont conduit à son extinction il y a 3 millénaires au Royaume-Uni. Cette réintroduction vise notamment la régénération des écosystèmes, puisque l'élan dissémine des graines de végétaux en se nourrissant dans des zones boisées et humides, ce qui conduit à leur revégétalisation. Moins de carcasses de béluga en 2024. Le nombre de carcasses de béluga découvertes dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent a été particulièrement faible en 2024, avec un total de 6, contre une moyenne annuelle de 15 dans la dernière décennie, rapporte le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, GREM. Cette diminution n'est toutefois pas synonyme d'une amélioration de la situation du béluga, qui ne montre aucun signe de rétablissement depuis la fin de la chasse en 1979. Les scientifiques avancent l'hypothèse qu'elle pourrait s'expliquer par un changement dans la répartition estivale de la population, ce qui ferait en sorte que les courants transportent les carcasses dans des zones moins accessibles. le mur de Trump menace la biodiversité en Arizona. La construction prochaine d'une nouvelle section du mur anti-migrants à la frontière du Mexique par l'administration Trump menace la biodiversité dans une région isolée de l'Arizona, déplorent diverses organisations environnementales. La section de 40 km, pour laquelle un appel d'offres a été lancé à la fin d'avril, traverse la vallée de San Rafael, l'une des régions ayant la plus grande biodiversité au pays et qui constitue un corridor crucial pour de nombreuses espèces animales vivant de part et d'autre de la frontière. Celles-ci se retrouveront coupées de sources d'eau et d'alimentation essentielles avec la construction d'un mur à cet endroit. Le vin européen davantage touché par le réchauffement climatique. Le vin européen est celui qui a subi les pires impacts du réchauffement climatique jusqu'à maintenant, montre une étude parue mercredi. En croisant les données climatiques observées à la floraison, à l'éclatement des bourgeons et avant les vendanges de quelques 500 cépages, les chercheurs ont constaté que l'Europe a subi les bouleversements les plus massifs. Les vignes doivent surtout affronter une montée des températures maximales plutôt que des températures minimales ou une augmentation d'épisodes de froid au mauvais moment. L'impact du réchauffement climatique se traduit par des vendanges plus précoces, un taux de sucre plus élevé et l'apparition de nouvelles zones de culture. Des climatiseurs sans gaz polluant. Les réfrigérants solides pourraient représenter l'avenir de la climatisation et du chauffage, montrent des recherches réalisées à l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni, qui a développé une pâte molle blanche et granuleuse composée de cristaux de plastique dont la température varie de plus de 50 degrés sous la pression. Contrairement au gaz utilisé dans les thermopompes actuelles, lesquelles contribuent au réchauffement climatique, ce produit ne fuit pas, en plus d'être potentiellement plus économe en énergie. Environ 2 milliards de climatiseurs sont en service dans le monde, un nombre appelé à augmenter considérablement d'ici 2050, selon l'Agence internationale de l'énergie, AIE. C'était l'actualité verte de la semaine, un texte de Jean-Thomas Léveillé, paru le 26 mai 2025 dans la presse.